La lumière après la mort, de Robert Lanier, lu par Martine Bressan. Je revenais d'un enterrement. C'était dans la petite église de Trancy, à la campagne. Le curé avait parlé d'un tas de choses, toujours les mêmes. La vie éternelle, le royaume du Père, la résurrection des morts et le jugement dernier. Mais surtout, il avait insisté sur la lumière après la mort. Personne ne l'avait contredit, on l'avait écouté religieusement. À l'issue de la cérémonie, il y a eu l'inhumation dans le caveau de famille au vieux cimetière, à la sortie du village, et j'ai vu le cercueil descendre dans les ténèbres d'un caveau. La lumière après la mort, tu parles d'un bobard. La nuit, oui, l'obscurité, les ténèbres à jamais, c'est ça la vérité. Puis j'ai repris la route pour rentrer chez moi à Trancy. Ça roulait sans problème sur l'autoroute. À un moment, je me suis arrêtée sur une aire pour prendre de l'essence et boire un café, histoire de me changer les idées en faisant une petite pause. Il n'y a rien de tel que les machines à café des stations-service d'autoroute pour oublier ses soucis. Déjà, il faut choisir sa machine. Il y en a trois sortes. Celles qui rendent la monnaie, celles qui ne rendent pas la monnaie et celles qui sont hors service. On passe déjà quelques minutes pour ce premier choix. Vient ensuite la sélection de la boisson. C'est ahurissant comme ça occupe l'esprit, à croire que c'est fait exprès pour tester la vigilance de l'automobiliste. Le café peut être d'Éthiopie, de Colombie ou du Brésil, Arabica ou Robusta. Il peut être moulu ou en grains, ou encore en poudre lyophilisée, sucré ou non sucré, court ou long, avec du lait ou sans lait. Il y a aussi un café qui est estampillé « commerce équitable », pour se donner bonne conscience, moyennant 20 centimes de plus. À ce prix-là, chacun peut s'offrir à peu de frais une âme généreuse et sauver une peuplade exotique en voie d'extinction. Et pourtant, j'en ai vu plus d'un se détourner pour économiser le supplément. Et même, il y a un café XXL, grande taille, comme pour les slips. Une fois qu'on a enfin choisi sa boisson et appuyé sur le bouton, c'est souvent à ce moment qu'on s'aperçoit qu'on est tombé sur la seule machine hors service, laquelle a évidemment accepté votre pièce de 2 euros, mais refuse obstinément de vous la rendre. Mais là, pour une fois, j'ai eu de la chance, et j'ai bu mon café tranquillement sur une table ronde tachée d'auréoles, de gobelets et de miettes diverses, juste en face des toilettes hommes toujours ouvertes, où une noire indolente passait une serpillière résignée sur les éclaboussures de pisse autour des urinoirs. Tout ça pour même pas le SMIC. J'ai décidé de continuer mon trajet en prenant les routes secondaires, c'est moins monotone. D'abord, je me fous de ma moyenne et je n'aime pas ces cinglés de la bagnole qui écrasent l'accélérateur pour oublier que le reste du temps, c'est leur femme et leur patron qui les écrabouillent. Je me méfie aussi de moi-même, j'ai tendance à somnoler sur l'autoroute. Alors, j'ai programmé mon GPS. Direction le village de La Salde, chez moi, encore 105 km exactement, par la départementale 37, puis la D286. Je me suis engagée sur la D37 tout en écoutant le Requiem de Mozart sur France Musique. Décidément, la mort me poursuivait ce jour-là. À peine avais-je parcouru une vingtaine de kilomètres qu'il y eut un claquement sec qui me fit sursauter. La radio s'était coupée brutalement. Mais surtout, les indications du GPS avaient disparu. Il ne restait qu'un écran blanc où je pouvais lire ce bref message en lettres noires « Off-road ». Le peu d'anglais appris au lycée autrefois, en traduisant quelques vers de Shakespeare, me permettait tout de même de comprendre cette formule laconique « en dehors de la route ». En clair, j'étais perdu, égaré, paumé quoi. Je ne m'inquiétais pas. Une telle panne m'était déjà advenue de temps à autre pour des raisons techniques obscures, tenant sans doute à des satellites mal positionnés ou à des interférences avec des obstacles divers. La société moderne, c'est le bug permanent. Faut pas s'inquiéter. Après quelques secondes, ou quelques minutes, sans qu'on sache pourquoi, ça remarche tout seul. Je roulais toujours, la route était à peu près rectiligne, avec parfois, juste pour ne pas s'ennuyer, des courbes plus ou moins larges et des virages plus ou moins serrés. Et de part et d'autre de la route s'étendait cette campagne verdoyante et si variée que j'aime tant, où alternent des prairies, des bois, des champs aux épis inclinés par le vent dominant. Je ne pouvais cependant regarder à loisir ces contrées bucoliques. Je me concentrais sur la conduite. Je regardais la route avancer vers moi en un long ruban gris. Au bout d'une demi-heure, certaines choses me parurent anormales. D'abord, le GPS n'était pas revenu, la radio non plus. En outre, depuis cette étrange coupure, je n'avais pas croisé une seule voiture, pas vu un seul panneau indicateur. J'avais l'impression de rouler dans un pays inconnu, un désert sans voiture ni panneau. Comment savoir où j'étais ? Je ralentis l'allure, une nouvelle heure passa sans que j'aie vu un seul véhicule. Je ne devais pas être loin de ma destination. Parcourir une centaine de kilomètres, ce n'est pas le bout du monde. Normalement, j'aurais déjà dû être arrivé. J'éprouvais un inexplicable sentiment de solitude. Après un nouveau virage, je me trouvais soudain devant une bifurcation. Deux routes devant moi, sans le moindre panneau indicateur. Mon GPS récalcitrant affichait toujours la même chose. Off-road. Au hasard, je pris à droite et je continuai, un peu inquiet maintenant. Je me sentais de plus en plus perdu et abandonné, quand, après 2 ou 3 kilomètres, j'aperçus enfin un village. J'en étais sûr, ce n'était pas La Salde. D'ailleurs, je n'avais pas fait attention au panneau. Il me semble même qu'il n'y en avait pas. Je décidai d'y faire une halte, ne serait-ce que pour demander mon chemin et me reposer un peu. Il y avait un grand parking ombragé de platanes près de l'église. C'est là que je me garai. Puis je me rendis dans le café-hôtel-restaurant tout proche et m'installai à la terrasse. Je demandai au garçon un grand crème qu'il m'apporta. J'adore flâner ainsi, paraisser délicieusement à la terrasse d'un café. Rien ne presse. On regarde les gens et les choses, le ciel et les nuages. Je savourai mon crème en y trempant la petite madeleine que le garçon m'avait apportée en même temps. Le ciel était gris clair, tout était calme et il y avait autour de moi une sorte d'immobilité surprenante. Personne sur la place, personne dans la rue. Juste un long fourgon noir stationné devant l'église. Le silence fut rompu par un bruit de porte qui grince. Le portail de l'église venait de s'ouvrir. Des personnes sortirent, vêtues de noir. Encore un enterrement, décidément. De fait, je vis sortir un cercueil que les croque-morts hissèrent dans le fourgon. Je n'avais jamais vu un tel véhicule mortuaire. Il était immense, un peu comme un camion de déménagement. Les croque-morts retournèrent dans l'église, en sortirent un deuxième cercueil, puis un troisième, et puis un autre, et d'autres encore. J'en comptais 11 en tout. J'étais éberluée. 11 cercueils pour une même cérémonie? Que s'était-il donc passé ici? Un drame collectif? Les parents et les amis des défunts se rangèrent derrière le long fourgon. Une chose encore me surprit. Avant de se placer ainsi, chacun s'inclina devant le réverbère de la place de l'église en faisant un signe de croix. Étonnante coutume, pensais-je. Le convoi démarra et je le suivis des yeux. Il n'avait pas fait 30 mètres que les gens adressèrent un nouveau salut en direction d'un autre réverbère. Alors, de plus en plus intrigué, je résolus d'en avoir le cœur net. J'appelai le garçon, réglai ma boisson et d'un pas rapide je rejoignis le convoi funèbre. Personne ne faisait attention à moi. Je marchais avec les autres en queue de cortège. Finalement, je me tournai vers ma voisine, une vieille femme, proche de 80 ans probablement, qui semblait un peu essoufflée en marchant. Je m'enquis à voix basse. « Le cimetière est encore loin ?»«
Le cimetière ? Mais monsieur... » Elle hésita. « Vous êtes d'ici ?»«
Non, je suis de Paris, mais j'étais à Trancy ce matin. »«
Et vous êtes parent d'un des défunts ?»
Je répondis oui, à tout hasard, sans rien préciser. Puis je revins à ma question initiale. « Et donc, pour le cimetière ?»«
Mais monsieur, il n'y a pas de cimetière ici. »«
Ah, il est dans un autre village ?
Plus loin alors ?»«
Mais non, il n'y a aucun cimetière. »«
Mais alors, où allez-vous maintenant ?»«
À l'usine de lumière. »«
Pardon, l'usine de lumière, vous dites ?»
Voyant mon air ahuri, la vieille me raconta. « Ici, monsieur, nous n'avons aucun cimetière. Songez, ça ne sert à rien, un cimetière. Certes, on y dépose les morts, mais franchement, je vous le demande. Pourquoi ? Pour qui ?
Avec la vie moderne, avec les familles éclatées, recomposées avant de se disloquer encore dans le tourbillon hédoniste et matérialiste de notre époque, les tombes sont bien vite désertées puis abandonnées. Dans l'agitation frénétique de notre siècle clinquant, fait de compétitions forcenées et de loisirs obligatoires, le repos est suspect, le silence immobile des cimetières fait peur. Il faut toujours faire des activités. Alors plus personne ne vient se recueillir, les sépultures ne sont plus fleuries, les tombes se délitent et tombent en ruine. Ah, les morts sont vite oubliés, vous savez. Et puis, ça coûte très cher à la commune, et donc aux habitants, l'entretien d'un cimetière, surtout s'il ne sert à rien. Et croyez-vous que ce soit sain de laisser se décomposer des milliers de cadavres au risque de polluer gravement les nappes phréatiques? Au fond, monsieur, c'est manquer de respect aux morts que de les abandonner ainsi dans des cimetières délabrés. Et c'est manquer de respect aux vivants que d'accumuler autour d'eux tant de pourriture. La grandeur de l'homme est dans sa pensée, comme le disait Pascal, et non dans son corps qui n'est qu'une enveloppe semblable à celle d'un animal. C'est vrai. Mais alors, vous, comment faites-vous? Oh, nous, monsieur? Elle s'interrompit un instant, me montra un réverbère devant lequel nous passions et fit un rapide signe de croix. Nous, monsieur, nous respectons nos morts, car nous leur devons la lumière. Je ne comprends pas bien, et pourquoi 11 cercueils dans ce convoi? Pas de cimetière et cette histoire de lumière, j'ai du mal à suivre, je voudrais bien comprendre. J'y viens, monsieur, j'y viens. Voyez-vous ici, nous groupons les morts de tous les villages et bourgs environnants. Chaque jour, il y en a une bonne dizaine, parfois davantage, des fois un peu moins, ça dépend. Après la cérémonie à l'église, nous accompagnons nos morts à l'usine de lumière. En fait, c'est un crématorium un peu particulier. Nous attendons le soir et nous faisons brûler ensemble tous les morts de la journée. Tous ensemble? Une crémation collective? Oui, monsieur, une crémation collective, tous ensemble. Et c'est important. Il ne serait pas juste qu'après leur mort, les gens se trouvent séparés alors qu'ils ont été si souvent, trop souvent, divisés de leur vivant. Séparés par d'innombrables querelles et d'interminables différends, déchirés par de vaines rivalités et de stupides idéologies, sans compter les écarts de fortune. La mort doit permettre d'atteindre enfin la réalisation concrète de ces valeurs cent fois proclamées que sont l'égalité et la solidarité. Si les hommes ne parviennent pas à vivre ensemble, qu'au moins ils soient ensemble après la mort. Oui, je comprends. Et la lumière? Eh bien, monsieur, c'est tout simple. La crémation des corps, chaque soir, permet d'alimenter la petite centrale électrique de la commune qui nous sert à éclairer notre village et ceux alentour pendant la nuit. Ainsi, tous nos réverbères sont alimentés par l'électricité produite par le crématorium. Ce sont les morts qui éclairent nos nuits. Qu'ils aient été d'humbles serviteurs ou de hauts dignitaires, des pauvres ou des riches, tous, dans la lumière de nos lampadaires, brillent du même éclat. N'est-ce pas là un beau symbole? Nos disparus ne sont donc ni oubliés ni délaissés, au contraire, on y pense forcément tous les soirs. Chacun, en voyant sa rue éclairée par une belle lumière dorée, sait bien d'où vient cette clarté et rend grâce en son cœur à ceux qui lui offrent la lumière comme un ultime cadeau de vie après leur mort. Quelle est belle alors la lumière après la mort! Et cette lumière ne s'éteint jamais. Chaque jour, nous avons de nouveaux morts, mais chaque nuit, ils nous donnent une nouvelle lumière. C'est ça, monsieur, la véritable énergie renouvelable dont on ne cesse de nous rabattre les oreilles à la télé et à la radio. L'écologie est trop souvent un mot, une simple formule à la mode dans certains milieux qui se veulent branchés. Nous, on ne fait pas qu'en parler. Nous avons élargi le tri sélectif, nous recyclons nos morts en les transformant en lumière. Comme je restais abasourdi, bouche bée, ne trouvant rien à dire, la vieille femme continua. Cela semble vous étonner, monsieur, mais au fond, nous avons repris quelque chose de très ancien. Les lanternes des morts qu'on trouvait autrefois au carrefour des routes, nous en avons fait quelque chose de concret, moderne et utile. Comme vous le savez peut-être, dans les lanternes des morts, on plaçait une lumière la nuit pour guider les défunts. C'était pure superstition, à cause de l'absurde crédulité des foules victimes de l'obscurantisme. Nous, on fait l'inverse, ce sont nos morts qui par leur lumière guident les vivants. Nos morts ne sont pas relégués au fin fond d'un cimetière introuvable et loin de tout. ou dans un vague jardin du souvenir, annexe d'un crématorium honteusement caché en périphérie d'une banlieue peu accessible. Nous, pour chaque mort, on fait réaliser une petite plaque souvenir, la même pour tous, que l'on fixe sur les colonnes des réverbères. Le souvenir des morts est donc présent dans les rues, dans le village. Et tout le monde peut lire sur chaque réverbère, tous les jours en passant, les noms de ceux qui ont quitté le monde des vivants. Ainsi, nous n'exilons pas ceux qui ne sont plus. Ils restent en quelque sorte au milieu de nous, on se souvient d'eux plus facilement. Croyez-moi, monsieur, on n'est pas vraiment mort quand on se souvient de vous. » Comme nous parlions ainsi, on était arrivé devant l'usine de lumière. Le long fourgon y entra, et peu après, chacun se sépara après un dernier signe de croix. Je rentrai seul. Quand j'atteignis de nouveau le village où j'avais garé ma voiture, la nuit était venue. Il faut en convenir, les rues étaient parfaitement éclairées. Le spectacle était d'une beauté émouvante. Autour de l'église, le long de la rue principale, sur la place où était le café-hôtel-restaurant, sur le parking où attendait ma voiture, partout brillaient ces points de lumière jaune, comme autant de souvenirs d'un être cher. C'était comme si tous ces morts me parlaient, me voyaient. Leur présence dans la lumière des réverbères n'illuminait pas seulement les rues, elle éclairait ma vie. Au ciel, en écho, des milliers d'étoiles silencieuses leur répondaient par de blancs scintillements dans l'univers infini. Un sentiment mêlé, fait de paix, de sérénité et de respect m'avait envahi. Je suis remontée dans ma voiture. J'ai tourné la clé de contact, remis en route le GPS et j'ai démarré. Quelques mètres plus loin, j'entendis enfin le message tant attendu. « L'itinéraire est maintenant calculé, veuillez continuer tout droit. » Ouf ! Une heure plus tard, j'étais chez moi à la Salde. On trouva que je rentrais bien tard. On me questionna. Mon histoire de réverbère éclairée grâce à la crémation des défunts dans un village parut invraisemblable, pire, farfelu. Personne ne me croyait. Je précisais que le village était entre Trancy et la Salde, sur la D37 ou la D286, et que je m'y étais arrêté. Je racontais l'enterrement, le cortège, l'usine. En vain. On sortit une carte routière. Ils s'y mirent à plusieurs. On me mit la carte sous le nez. « Mais tu vois bien, regarde, il n'y a aucun village sur la route, aucun, ni sur la D37, ni sur la D286. Et d'abord, il s'appelait comment ce village ?» Je fus incapable d'en dire le nom. Ce n'était pourtant pas de ma faute. Il n'y avait pas de panneau. Et même mon GPS ne le connaissait pas. Tout le monde se récria. « Ah, tu vois bien, tu ne sais même pas le nom de ce patelin. Tu as dû rêver. C'est pas possible, voyons, une histoire pareille. » Pas possible, pas possible, mais c'est incroyable. Quand le curé parle de la lumière après la mort, personne ne lui dit rien, pas la moindre objection. Tout le monde a l'air de trouver ça normal. Et moi qui l'ai vu, de mes yeux vu cette lumière, on me dit que ce n'est pas vrai. Écoute, restons-en là, tu dois être fatigué, tu devrais aller te coucher, ça ira mieux demain, tu verras. Ils avaient sans doute raison. Une lumière après la mort. C'est vrai que c'est complètement invraisemblable, je ne sais pas où je suis allée chercher un truc pareil. Après la mort, nous retournons au néant, exactement comme avant notre naissance. Il n'y a rien avant et donc rien après. C'est symétrique, c'est logique, c'est cohérent. Tout le reste n'est que philosophie ou crédulité, c'est-à-dire à peu près la même chose. Mon imagination m'a joué des tours, c'est tout. Je suis allée dans ma chambre, je me suis couchée et me suis endormie. Le lendemain matin, au petit déjeuner, personne ne m'a parlé de cette histoire. On m'a juste demandé « Alors, bien dormi ?»« Oui, mais j'ai fait un drôle de rêve. »« Ah oui ? Et c'était quoi ?» Je roulais en voiture quand mon GPS est subitement tombé en panne. « Et puis, non, je ne vais pas vous embêter avec ça, il me semble que j'ai déjà raconté la même chose hier. N'en parlons plus. » En effet, on n'en a jamais plus parlé. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Peut-être l'ai-je vécue, peut-être l'ai-je rêvée. Mais lorsque vous marcherez, vous, une nuit, dans une rue éclairée, et que vous passerez sous la lumière blonde d'un réverbère, ayez une pensée pour ceux qui ne sont plus. Car cette lumière qui tombe du lampadaire et qui éclaire vos pas, c'est peut-être à eux que vous la devez. Qui sait ?